un homme qu'on connaît bien. Et lui, il aurait été content de prêcher à cette chaire parce qu'il s'appelle Zachée et c'est un homme de petite taille. Donc il aurait dit merci pour la chaire. Alors, je vous invite dans un premier temps, on va lire son histoire qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Et je vous invite à lire les 10 premiers versets. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Je pense qu'on connaît tous aussi l'histoire du jeune homme riche. Hein, ce jeune homme qui vient et se jette aux pieds de Jésus, « Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et dans le discours, Jésus va lui faire comprendre que son Dieu, en fait, c'est l'argent et que c'est dans l'argent qu'il place sa confiance. Et il va lui donner un choix radical à faire puisqu'il va lui dire, en gros, il faut que tu te sépares de ton argent pour pouvoir me suivre. Et le texte dit deux choses intéressantes. Quand Jésus l'a regardé, il dit « Jésus, les mains ». Mais le jeune homme, lui, est reparti tout triste. Hein? Donc c'est deux histoires qui sont parlantes, mais il y a deux rencontres, mais deux résultats très différents. Parce qu'en fait, la rencontre a conduit l'un à la tristesse et elle a conduit l'autre à la joie. Elle a conduit un à s'exclure du royaume de Dieu, un choix qu'il a fait. On ne connaît pas la suite de sa vie, évidemment, mais et l'autre, les portes sont ouvertes et il est entré. Et celui, le jeune homme riche qui avait le regard favorable de la foule, finalement, c'est lui qui repart tout triste. Et celui qui était déjà condamné par la foule avant que Jésus arrive, finalement, lui, à la fin de l'histoire, il est plein de joie et manifeste sa reconnaissance en distribuant ses biens. Et là, je crois que dans l'histoire de Zachée, on a vraiment ce que j'appellerais une manifestation éclatante de la grâce de Dieu, et je dirais même de sa miséricorde. Et l'attitude de Jésus a beaucoup à nous apprendre. Je crois qu'ici, Jésus enseigne à la foule et à ses disciples à changer leur regard sur leur prochain. Vous voyez, quand il y avait l'histoire du jeune homme riche, là, les gens voyaient un homme qui avait tout pour être sauvé. Hein, il est riche pour les juifs, signe de bénédiction. Les évangiles nous disent que c'est un notable, peut-être le chef de la synagogue. Hein, on ne sait pas s'il avait beaucoup d'enfants, mais c'est aussi un signe de bénédiction. Il obéit à tous les commandements, mais franchement, qu'est-ce qui lui manque, quoi ? On va lui ouvrir la porte en grand. Hein, et quand Jésus dit, il va repartir, je veux dire, tout triste, ce jeune homme riche, les gens sont étonnés. Mais alors, qui peut être sauvé si lui, le riche, là, il ne peut pas y aller ? Et on a un regard qui doit parfois changer. Parce que toute la foule avait déjà condamné Zachée. Hein? Pour eux, c'était vraiment le gars qui était tout juste bon pour l'enfer. Un collabo. Un traître à sa nation. Et déjà, il était condamné. Alors on va regarder dans notre histoire les trois regards qu'il y a. Il y a le regard de Zachée, il y a le regard de Jésus, et il y a le regard de la foule. Hein, mais je ne vais pas en faire les points vraiment 1, 2, 3, parce que ces regards, ils se croisent. Et en fait, tout est une histoire ici de regards. Tout se joue ici dans les yeux. Alors, Zachée est de petite taille. Hein. Donc, ce n'était pas dit ici combien il mesurait, mais il était de petite taille. Et je me dis, quand il y a la foule qui est là, et lui, il voudrait voir Jésus qui passe là-bas, dans la rue, là, il essaye de faire des coudes, peut-être, pour passer, mais je me dis, qu'est-ce que lui, il pouvait voir ? Des dos, des omoplates, des coudes. Ah, il était un petit peu perdu, là, dans cette foule. Et vu sa réputation, la foule n'allait certainement pas s'écarter pour dire « Mais je t'en prie, Zachée, passe devant !» Il n'avait pas une place de VIP, hein, à mon avis, je crois pas. Hein. Moi, je me demande à la limite s'il n'y en a pas un ou deux qui ont pété un coup de coude en passant et tac, profiter, il va pas voir que c'est moi. « Oh, parce que moi, Zachée, t'es tellement petit, je t'avais pas vu, là !» Vous voyez ? Ça aurait plutôt été dans le sens, là. Mais on peut remarquer que Zachée ne se laisse pas décourager. Hein, il a dû retraverser la foule dans l'autre sens pour se retrouver à l'arrière, parce qu'il dit qu'il voulait voir qui était Jésus, et ça, il y avait une occasion à ne pas louper, hein, surtout qu'après Jésus monte vers Jérusalem, je veux dire, il n'a pas beaucoup de chance de le revoir. Hein. Alors il va courir à l'avant, il va monter sur un sycomore, j'avais fait des recherches un peu pour le sycomore, en fait c'est un arbre qui peut être assez haut, et donc il avait un bon perchoir pour voir Jésus, et en plus il était protégé. Mais je me suis posé aussi la question, le fait qu'il monte dans le sycomore, c'est sûr, il voulait voir qui était Jésus. Après, je me suis posé la question, Zachée avait vraiment une très mauvaise réputation. Hein, le traître, hein, qu'on a dit, le collabo, tout ça, quelqu'un de pas aimé, rejeté par les gens, ça devait pas être facile dans sa famille, quand même un repas de famille, d'inviter, oh, on invite le tonton hein, qui est collecteur d'impôts, tout ça, ouais, bah, à l'école tu verrais ce qu'ils m'ont mis dans les dents, enfin j'imagine quoi ça, voilà, hein, y a sa réputation, mais il y a tout ce que ça entache à côté, quoi. Alors, je me suis posé la question, mais lui, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être une petite crainte de Jésus ? C'est une question. Parce que je me suis dit dans l'arbre là, il est un petit peu caché quand même. Hein ? Il n'est pas sur un podium en plein milieu où tout le monde le voit. Non, il est dans l'arbre. Alors on ne sait pas comment les arbres, c'est plein de feuilles ou quoi. Mais enfin, il pourrait être un petit peu caché. Et si Jésus ne lève pas les yeux, il ne le voit pas. Donc Zachée pourrait regarder passer Jésus, essayer peut-être de capter une parole, essayer peut-être de... Mais il aurait pu être caché. Et je me suis posé la question, hein, parce que c'est quand même le rôle d'un prédicateur, c'est de poser des questions faites. Alors... Est-ce que Zachée aurait eu peur comme son ancêtre Adam, qui lui aussi s'est caché au milieu du bois ? Hein, on imagine derrière son arbre, là, bon, après... Mais il était quand même caché. Il a été caché quand il a entendu la voix de Dieu ? Hein ? Et je me dis, c'est une question. Est-ce que Zachée n'était pas en même temps désireux de voir Jésus et en même temps, si Jésus venait avoir un petit discours avec moi, vu sa réputation et tout ce qu'on dit de lui, on pourrait se demander si Adam et Zachée s'amusaient à faire une partie de cache-cache avec Dieu. Mais bon, on va rester sérieux, on ne va pas penser qu'il joue à cache-cache, hein, qui aurait l'idée de jouer à cache-cache avec Dieu, hein? Maintenant, on peut se poser la question d'autres questions. On peut attaquer, si vous voulez, cette histoire différemment. Est-ce que Zachée aurait entendu parler de celui qui accueille les pécheurs et mange avec eux ? Est-ce que sa foi en Dieu aurait poussé cet enfant d'Abraham à désirer voir celui qui était déjà considéré comme un prophète ? Peut-être qu'il voulait voir celui qui a pardonné les péchés du paralytique avant de le guérir. Peut-être qu'il voulait voir celui qui accueille les prostituées, mange avec. Peut-être qu'il voulait voir celui qui a été invité chez un chef religieux qui s'appelait Simon et qui a laissé une prostituée pleurer sur ses pieds, lui essuyer avec les cheveux. Et peut-être qu'il avait déjà entendu parler que c'est ce Jésus-là qu'il voulait voir, pas un Jésus qu'il aurait... condamné. Est-ce que Zachée avait en lui une graine d'espérance qu'un jour Dieu ait pitié de lui ? Parce que le regard de jugement et de condamnation qu'il devait subir au quotidien, est-ce que ça pouvait lui donner des raisons d'espérer dans la miséricorde de Dieu ? Est-ce que le discours qu'il entendait des chefs religieux de l'époque pouvait lui donner le désir de s'approcher de Dieu, d'expliquer sa situation, d'ouvrir son cœur, de le répandre devant lui? Moi, j'ai l'impression que, d'après ce qu'on voit dans l'Évangile, avec le discours très carré des pharisiens, là, quelle image de Dieu il avait. Disons, avec la vie que je mène, je suis déjà condamné par les gens autour de moi, alors vous pouvez avoir une certaine peur de Dieu. Et était caché dans son arbre derrière les feuilles à guetter Jésus. Alors Jésus, lui, ne passe pas devant Zachée. Vous avez lu le texte, il ne passe pas devant Zachée. Il s'arrête. Il ne passe pas, il s'arrête. Jésus voulait le voir passer pour voir qui était Jésus, mais Jésus s'arrête. J'imagine que la foule a dû se demander pourquoi il s'arrête, il n'y a pas de feu rouge. Hein? Pourquoi il s'arrête? Et si Zachée, lui, ne sait pas encore vraiment qui est Jésus, eh bien Jésus, lui, connaît déjà tout de Zachée. Vous imaginez la foule, les disciples qui sont là? Jésus s'arrête devant ce publicain et il l'appelle par son prénom. Et c'est assez rare. Il y a 4 ou 5 fois dans l'évangile de Luc où on appelle quelqu'un par son prénom. Ça veut dire que c'est important, ça. Zachée montre qu'il le connaît. Zachée descend. Ah, dis donc. Là, j'aime autant vous dire que les disciples et la foule vont dire, avant de murmurer, je suis à peu près certain qu'il y a dû avoir un petit temps de silence, le temps que les connexions se fassent. Oui, Jésus lui a bien dit ça et il... Ne crains pas Zachée, je te connais par ton nom, je sais tout de toi. Et pourtant, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Moi j'aime bien, c'est il faut. C'est pas tiens Zachée, t'aurais pas un petit bout de saucisson à griller dans ton frigo parce qu'on a la dalle. Ou c'est pas Zachée, là t'aurais pas un petit verre d'eau parce que le chemin est encore long. Non. Il faut que je demeure. Vous avez certainement tous vu l'importance du verbe demeurer. Quand vous lisez l'évangile de Jean, c'est un verbe qui traverse l'évangile de Jean, il est vraiment important. C'est pas juste un petit temps de passage, non, il faut vraiment que je demeure. Certains commentaires disent, vu le contexte, le verbe employé est certainement où rester la journée, voire même qu'a dormi, passer la nuit. Alors imaginez le scandale dans le village le lendemain. Là, je peux vous dire que Vosges matin en a fait ses chouvres. Mais s'il dit il faut que je demeure chez toi aujourd'hui, on pourrait en déduire que le fait de rencontrer Zachée et d'aller chez lui, ça fait partie de sa mission divine. Et là, non seulement ça fait partie de sa mission divine parce qu'il est venu chercher et sauver ce qui est perdu, mais en même temps, imaginez l'enseignement qu'il est en train de donner à ses disciples et à la foule. Il leur apprend vraiment à changer leur regard sur leur prochain. Et quand il dit « il faut », c'est un terme assez fort dans l'évangile de Luc. Si vous recherchez tous les « il faut », ben vous allez voir. « Il me faut annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faut détacher cette femme liée par Satan. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Il me faut poursuivre ma route aujourd'hui et demain. Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Alors Jésus passe devant ce sycomore et... C'est Jésus, le Dieu fait homme, qui doit lever les yeux pour dire à Zachée, ce pécheur, qu'il doit descendre rapidement de cet arbre. Pourquoi rapidement? On voit une chose dans les évangiles, c'est qu'il y a urgence à annoncer le royaume de Dieu. « Ah mais attends, il faut que j'aille déjà dire au revoir aux gens de ma famille. » Non, Jésus dit, si tu commences à me suivre et que tu regardes derrière, t'es pas bon. « Ah mais attends, il faut que j'enterre mon père. » Non, laisse les morts enterrer les morts et suis-moi. « Oui, je te suivrai partout, tu iras, fais attention, parce que le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. » Il y a urgence à annoncer le royaume de Dieu et à laisser, entre guillemets, tomber les affaires de ce monde. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas payer votre facture d'électricité, on se comprend bien. Et quand Jésus lève les yeux, pour moi c'est le moment le plus important du texte, c'est que les regards se croisent. Jésus regarde Zachée, et Zachée, franchement, de se dire, attends, cet homme qui est déjà au moment-là considéré comme un prophète, dont les disciples, certains ont découvert qu'il était le Messie, hein, on se rappelle, la révélation de Pierre, tout ça, c'est pas n'importe qui est en train de passer. Et là, il s'arrête, il lève les yeux et les regards se croisent, avant qu'il ait dit la parole. Et quand on pense au jeune homme riche, qui s'est exclu lui-même du royaume de Dieu, il est dit avant que Jésus le regarde et les mains. Et je ne peux pas imaginer un seul instant qu'il y ait un seul regard de Jésus qui est un regard de condamnation. Et je suis sûr que quand il a regardé Pierre qui venait de le renier, ce n'était pas de la condamnation. Je suis sûr qu'il y avait une sorte de tristesse dans le regard de Jésus, parce qu'il fallait que Pierre arrive à ce moment où il comprenne qu'il ne pouvait pas mettre sa confiance en lui, il devait craquer à ce moment-là. Mais je suis sûr qu'il n'y avait pas de condamnation dans le regard. Et je me dis que croiser rien que le regard de Jésus, je suis sûr que ça pouvait changer votre vie. Regardez combien de fois il dit à des gens « suis-moi » et les gens le suivent et on dit « attends, qu'est-ce qu'il fout ? » Il abandonne son boulot, tout ça, il suit Jésus. On a du mal à comprendre ça, hein, mais... Croiser un regard rempli d'amour, de miséricorde, où on voit qu'il n'y a aucune condamnation, ça devait être quelque chose de fort. Et là, notre ami Zachée croise ce regard. Me dit que c'est... Il y a le regard, alors il y a celui du fils d'Abraham qui croise le regard de celui qui s'appelle lui-même le fils de l'homme. Celui d'un pécheur qui croise le regard du sauveur. Celui d'un petit qui s'est grandi et qui croise le regard d'un Dieu qui s'est... abaissé. Et tout se joue dans ce regard. Suite Zachée doit être rempli de d'étonnement, de surprise, celui de Jésus est rempli d'amour. Et un commentateur qui s'appelle Daniel Bourguet a dit « La honte du péché a disparu dans ce regard rempli d'amour et de compassion. » Je crois que quand les regards se croisent, pour eux au moment-là, la foule n'existe plus. Vous avez déjà vécu des moments, hein? Vous avez vu votre femme pour la première fois, là, puis hop, tout le monde autour n'existe plus. Vous voyez ce genre de regard, hein? D'ailleurs, tu vas être en retard, attends, il y a le train, il y a ceci, dépêche-toi, non, vous êtes là, figé, vous regardez votre femme, hein, qui est en train de fondre devant vous, tellement vous êtes beau, hein? Voilà, vous rappelez tous ces bons moments, hein? Maintenant, vous pouvez encore fondre, hein, c'est pas interdit. Je crois que là, plus personne n'existe. Il n'y a que deux regards qui se rencontrent, peut-être dans un court instant de silence. Ça, le texte ne dit pas, mais je suppose que quand Jésus s'est arrêté, qu'il a regardé, les gens devaient se demander, qu'est-ce qu'il fait là? T'as vu qui est-ce qui est en train de regarder, toi? Et Daniel Bourguet dit aussi, dans ce moment, c'est comme un brin d'éternité qui vient suspendre le silence. Et Jésus ne veut pas lui juste voir Zachée. Il veut demeurer chez lui. Et c'est intéressant parce que Jésus lui dit pas « Zachée, j'ai des choses à te dire ». Là, peut-être que la foule aurait dit « qu'est-ce qu'il va lui mettre ? Hein, ça va fumer dans la maison ». Non, non, il faut que je demeure chez toi. Et en fait, si vous lisez bien le texte, on ne sait pas ce qui s'est passé entre Jésus et Zachée quand ils sont entrés. On ne sait pas combien de temps que ça a duré. On voit juste la réaction de Zachée. On peut supposer hein, qu'il y a eu un repas, il y avait certainement les disciples avec, quand Jésus s'invite, il déboule à 13, hein. Vous ne pouvez pas les avoir à manger, mais quand même, c'est comme ça. On peut s'imaginer assez facilement qu'on connaît l'évangile, mais il n'a rien dit. C'est important, si Luc ne dit rien de ce qui a été dit, c'est que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Jésus est entré dans cette maison, et qu'il a joué son rôle, j'ai envie de dire, d'Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Hein, il est venu là dans cette famille et pour eux, vraiment à ce moment-là, il a été Emmanuel d'une manière très forte. Vous voyez, celui qui n'a pas de lieu où reposer sa tête a choisi d'aller la reposer chez un pécheur notoire, condamné par la foule, par certainement ses amis, sa famille. Et quel est le regard de la foule sur ce qui se passe ? Ils sont stupéfaits. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu la parole tout de suite? Il est allé loger chez Zachée. C'est ça?
Non.
Non, non, ceux qui disent oui, il faut relire votre Bible, hein, tu les respecterais, il y en a deux qui ont dit oui. Il est parti loger chez un pêcheur. Pas chez Zachée, il est connu quand même Zachée, ils le savent son prénom. Non, il est allé loger chez un pêcheur. Et la foule, elle, c'est sûr qu'il y a longtemps qu'elle l'a condamné. Hein, ça, il n'y a pas à chercher à comprendre. Hein, et on sait bien que, parfois, même dans nos milieux évangéliques, j'ose le dire, bon, je ne serais peut-être plus invité à prêcher après, mais reconnaissons, ouais, je suis moi-même comme ça. Pour ce qui est de juger les autres, on est des vrais Lucky-Luke. Hein? Non, mais l'homme qui condamne plus vite qu'il observe, quoi. Lucky Luke, c'est pas tout à fait ça. Même nous, on est quand même des Lucky Luke, faut le dire. Alors là, la foule, c'est les Lucky Luke en puissance, les Rambo, ils mitraillent à tour de rôle. Hein. Toujours sur l'apparence, toujours sur des choses extérieures. Et les pharisiens, je pense que les pharisiens se réjouissent quelque part d'entendre la foule. C'est bien la preuve que cet homme est un imposteur. Il se souille avec un pécheur notoire. Ben Jésus, ça c'est une chose que j'ai appris, hein. Alors le verbe apprendre, vraiment souligné, c'est que Jésus, il se fout de sa réputation. Hein. Et réfléchissez dans vos oui, demandez au Seigneur de vous le montrer, et vous verrez qu'on ne se fout pas tant que ça de sa réputation. Et pour crucifier notre réputation, c'est dur. Là, vous pouvez aller à la quincaillerie, il y a des clous, et vous aurez vite fait d'avoir une carte de fidélité. Parce qu'on tient à notre réputation. On tient à ce que le regard des gens sur nous est important. Et s'en libérer, ce n'est pas évident. Et quand le Seigneur vous met sur le chemin pour en être libéré, ce n'est pas évident. Vous avez les mains qui saignent. Mais Jésus, il s'en fout de ce que les gens pensent. Et vous voyez, c'est à force d'étudier les évangiles qu'un jour j'ai vu ça. Mais il dit, les gens le critiquent et tout, mais continuent à aller chez Jean-Pierre. Pourquoi ? Parce qu'il connaît bien son identité. Hein ? Il est vraiment le Fils de Dieu et il a une mission. Clair, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous avez vu que dans les évangiles, c'est à noter pour nous aussi dans nos églises, hein, mais quand les foules ou les chefs religieux ne comprennent pas l'attitude de Jésus, paf, ils le condamnent. Vous voyez, ils ont toujours, les pharisiens, hein, ils ont toujours un regard négatif sur Jésus. Alors ils cherchent toujours qu'est-ce qui ne va pas. Ah, et dès qu'il fait comme un truc comme ça, là, oh ben, aussitôt, il va se faire condamner. Mais Jésus, ça n'empêche pas qu'il continue. Zachée, lui, il accueille Jésus avec joie. Hein. Et ce qui m'a étonné, quand j'ai étudié ce texte, il n'a pas peur. Et c'est pour ça que je vous dis que tout s'est joué dans ce regard. Il n'a pas peur. Hein, il sait que si la foule va le condamner et qu'il va encore s'en prendre le lendemain dans les dents, il n'a pas peur d'accueillir Jésus chez lui. Et l'incroyable se produit, hein, on voit le miracle de la grâce, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais par contre on en voit les fruits, c'est que Zachée va distribuer la plus grande partie de ses biens. La foule qui suit Jésus depuis longtemps doit voir en lui un révolutionnaire, je pense, parce qu'il fait des choses vraiment qui vont à l'encontre de la culture, de la mentalité, de leur manière de penser. Et pour eux, je pense que quelque part, c'est un révolutionnaire. Ils renversent leur raisonnement, leur échelle des valeurs, leur théologie, leur manière de juger sur les apparences. Ils n'arrivent pas à voir en lui un homme motivé uniquement par l'amour du prochain. Un homme qui ne se soucie pas des apparences, qui aime tous les hommes sans distinction. Un homme qui a compassion de ceux qui souffrent, de ceux qui sont liés par le péché, qui sont condamnés par leur père. Il ne devrait pas discerner le Fils de l'homme, mais il devrait discerner le Fils de Dieu, celui qui est en train d'accomplir les Écritures. Moi, j'ai toujours aimé cette parole de Jésus qui dit à ses chefs religieux, « Vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Vous voyez, c'est incroyable comment on peut être aveugle parfois. La rencontre entre Jésus et Zachée produit vraiment des fruits incroyables. De voir un collecteur d'impôts distribuer les biens, ça montre qu'il y a une transformation qui s'est opérée assez miraculeuse dans son cœur, dans sa mentalité, et que certainement il a reçu le pardon pour agir d'une manière comme ça. Et vous avez vu, il y a peut-être un petit truc intéressant. Hein. Il ne dit pas je rembourse ce que j'ai volé ou je rembourse ce que j'ai escroqué. Non, non, il dit si j'ai fait du tort à quelqu'un. Il est intéressant quand même ceci. Hein, je trouve. Si j'ai causé du tort à quelqu'un. La nuance est quand même de taille. Parce que en général, il y a réparation des torts. Il y a des torts qui ont été faits, on pardonne et on essaye de réparer dans la mesure du possible. Mais il dit ici, si, ça implique déjà que peut-être qu'il a été condamné un peu vite par la foule. Est-ce que la foule pourrait apporter des preuves concrètes comme quoi il les a bien volées? Ici, on voit que, bien sûr, Jésus, malgré l'attitude de Zachée qui nous étonne, c'est lui le personnage principal. C'est lui qui s'est arrêté, c'est lui qui a regardé Zachée, c'est lui qui a dit « il faut que je demeure », c'est lui qui rentre et c'est grâce à sa venue que sa vie est transformée. Moi, je crois que on devrait passer du regard de la foule à celui de Jésus. Et on a parfois besoin, vraiment, que le Saint-Esprit œuvre en nous pour attraper ce regard de Jésus. Et avouons-le, c'est pas toujours facile. Je crois qu'on doit aussi apprendre à nous libérer du regard de l'autre, comme Jésus en était totalement libéré. On devrait apprendre à mettre à mort le « qu'en dira-t-on » quand on fait quelque chose qui dérange les gens, qui choque les mentalités. Et crucifier sa réputation pour vraiment vivre libre, c'est pas un chemin spécialement facile. Mais si nous, les chrétiens, on a toujours la même vision du monde sur les autres, où est-ce qu'on marquera la différence dans nos comportements? Je crois qu'on a vraiment un besoin urgent d'avoir ce regard qui se change. Vous savez, j'aimerais terminer avec ça. Sachez, quand on lit l'Évangile, allez, c'est un collecteur d'impôts, donc un traître, un collabo, on a plein de noms à lui coller sur le dos. Maintenant, je pose juste la question, mais finalement, est-ce que quelqu'un dans la foule pouvait dire « je sais pourquoi Zaché est collecteur d'impôts » Est-ce que ça se pourrait pas que les Romains soient venus chez lui et l'aient obligé à être collecteur d'impôts parce qu'il savait lire, écrire, compter? Donc je vous raconte une histoire. Moi, mon grand-père était garagiste et pendant la guerre, les Allemands ont venu et ils ont dit « aujourd'hui on réquisitionne votre garage ». Et il a eu beau discuter, « oui mais moi voilà, non, c'était l'armée qui a décidé, à partir d'aujourd'hui vous réparez les véhicules allemands ». Voilà. On aurait pu dire, le grand-père, c'est un collabo, il travaille avec les Allemands. Alors, il était connu, tout ça, mais vous voyez, est-ce que Zachée n'a pas vécu quelque chose comme ça? Nous, on condamne Zachée, ou la foule condamne Zachée sur ce qu'il voit là, mais, comme une dame disait à Insissam, personne ne vit dans ses baskets, personne ne connaît son histoire de vie, personne ne sait le pourquoi il en est arrivé dans cette situation. Mais par contre, quand Jésus vient, lui, il la connaît, son histoire de vie, il sait pourquoi il est là. Peut-être que Zachée est dans une situation dure, il avait 8 gosses à nourrir à la maison, on lui a proposé ce travail, il a dit « plutôt que de voir mes enfants mourir de faim, je vais faire ça ». J'invente, mais apprenons à ne pas juger trop rapidement. Alors que le Seigneur puisse nous bénir, nous donner d'avoir un regard, une vision qui change, et que nous puissions appliquer ce commandement qui nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Amen.